Sur la bande, are you ready?
On met notre casque, nos gants et tout notre équipement.
Ouais.
Pour la game, on est prêt à jouer chaque moment.
Chaque moment.
Pour une bonne mise au jeu, avec le ref, on est baveux. Mise en échec quand on peut, tu sens la victoire dans nos yeux. Prêt pour la victoire, vous pouvez soulever les gros trophées. La coupe, on veut l'avoir, notre équipe est surclassée. Autour du filet, toutes les équipes sont admises. Malgré les coups de sifflet, sur la place, tout est permis.
La saison 5, c'est parti, il aura pas de chichi. Ici, pour toute la vérité, je vous le promets, je vous le dis. Sur la bande, c'est la meilleure équipe, toujours là pour les hits. Notre succès a pas de limite. Zeb est back avec de nouveaux invités. Avec passion pour jaser, toujours là pour commenter. Le show va commencer, faut surtout pas le manquer. Sur la bande, faut écouter, ici c'est le podcast du hockey. Du hockey.
Salut Zach.
Salut mon Seb.
Yes, ça va bien?
Si on d'entrée, on m'entend bien ou pas?
Ouais, je t'entends bien, moi.
OK. Parce que pendant l'intro, je me suis aperçu que mon micro n'était pas branché. Fait que je sais pas comment je vous parlais avant.
T'as failli faire la même gaffe que moi. J'étais comme. Il sert à quoi ce fil-là? Je suis comme, OK, je l'ai remanché.
Tout est beau. M'entends, tout va bien. Salut Seb, ça va?
Yes, toi.
Yes.
Yes. Merci tout le monde d'être là. On est déjà 21. Ça a été un très bon podcast, très bon épisode avec Yann Pavel Laplante. Ça a été très intéressant à suivre son parcours qu'il y a eu comme joueur de hockey. Avant, on va parler tout de suite de nos commandites. Après ça, on va starter ça. Boutin Performance, commanditaire or.
Innovagence, merci pour le site web.
Molson Coors par Steve Lord.
Wonderbread par Maurice Bordelot.
Sophie Saint-Cyr, Prévost, courtier immobilier.
DJ Jeff Gadouri en mode podcast.
Monsieur s'éclate avec leur merveilleux popcorn.
Directeur du Maxi de Val-d'Or, Francis Gauvin.
Un gros merci à Patrice Lamotte pour le beat.
Et un gros merci à Mordant du Nord, Danaëve Pelletier, pour les miniatures, les affiches, la belle image qu'on voit. On voit Yann, on voit le petit le coyote finalement en arrière. C'est très beau. Merci encore.
C'est très apprécié. Sans quoi cette saison-là ne serait pas possible. On est déjà à saison 13 de notre saison 5. C'est énorme. Ça fait, en janvier, ça va déjà faire 4 ans qu'on fait ça. Puis, je pense que c'est plus qu'une passion. Si on est là à chaque semaine, on est là à chaque rendez-vous. À part quand on manque d'Internet comme la semaine passée, on change de journée.
Ouais.
Bon, fait que c'est bon, fait qu'on peut lancer la mise au jeu de la semaine.
Yes.
Si t'es un entrepreneur et que tu souhaites avoir un site web performant, moderne, sans avoir à payer de tarifs de 25%, chez Innovagence, on conçoit des sites web de A à Z, une solution clé en main pour votre entreprise.
Si tu es un gamer et que ton ordinateur est lent, ici, chez Innovagence, on crée des ordinateurs performants et durables. Visitez notre site web innovagence.com ou appelez-nous au 418-551-4393. 418-551-4393.
On est prêt! Let's go! Salut Yann!
Salut, bon, ça va?
Ça va, toi?
Ben oui.
Yes. Est-ce qu'on peut commencer avec une petite présentation de toi, s'il vous plaît?
Ben, dans le fond, mon nom, c'est Yann Pavel Laplante. J'ai 30 ans. J'ai joué au hockey pendant très longtemps. Puis ma carrière s'est terminée quand j'avais environ 23 ans environ.
Est-ce que c'était... Ben, tu sais, on va en discuter plus pendant le podcast. Est-ce que ça t'a fait de mal d'arrêter ta carrière ou c'était comme une décision pour toi aussi?
Ben, en fait, ils m'ont juste annoncé que c'était terminé. Là. Après, j'ai eu une grosse blessure à l'épaule. Puis j'avais été faire mon dernier test à Toronto. Puis ils m'avaient clairement dit, il va falloir que tu trouves de quoi d'autre à faire dans la vie parce que c'est terminé. Fait que ça s'est fini là. Je suis revenu à Montréal. Puis là, ben, c'est là que ça s'est terminé. Puis là, il fallait que je trouve de quoi faire dans ma vie. Là.
Okay.
Ouais, c'est assez minime le nombre de joueurs, le pourcentage de joueurs pro qui décident quand ils prennent leur carrière, là, quand c'est pas soit l'équipe qui rachète le contrat ou malheureusement une blessure comme ça. C'est assez minime quand même.
Ben, tu sais, c'est sûr qu'au niveau de des blessures, c'est rare que ça arrive à une fin de carrière comme moi j'ai vécu. Souvent, il y en a qui trouvent quand même une carrière ailleurs, tu sais, ils vont essayer l'Europe, ils vont continuer dans la ligue nord-américaine, peu importe au niveau senior. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est différent que les autres joueurs, qu'est-ce qu'ils font que la carrière se finit, mais tu vis avec, puis tu trouves autre chose. C'est la vie. Là.
OK. Fait qu'on va passer au premier segment autour du filet.
Ce segment d'autour du filet est une présentation de Boutin Performance. Si l'entretien de votre véhicule vous tient à cœur, en Abitibi, c'est le garage où aller. 1150 rue de l'Escale pour ce qui est de Val-d'Or, le meilleur garage. Bon segment.
Yes, autour du filet, on va faire un peu le parcours de ta carrière. Choix de deuxième ronde, 33e au total par le Rocket de l'Île-de-Prince-Édouard. Ça fait un bout, mais te rappelles-tu un peu de ton repêchage?
C'est loin, là. Ça, je me rappelle un petit peu de comment ça s'est passé. Moi, c'était à Victoriaville. Puis, tu sais, la famille était toute là. C'est là que ça commençait. C'est là que tu vois que le junior majeur, tout le monde en rêve au début. Puis, c'est comme un peu le plus gros événement qui start une carrière, on pourrait dire. Fait que c'était un peu de stress, mais c'était assez le fun là, pour d'être avec les amis, famille, autres, puis de te faire repêcher, d'entendre ton nom. Là, tu sais que c'est là que ça commence. Là.
Est-ce que il y avait encore un classement dans ces années-là? T'étais-tu classé environ deuxième ronde? Ou?
Je pense que oui. Je ne me rappelle pas là, du classement avant. Mais, tu sais, au niveau de l'île du Prince-Édouard, j'avais rencontré vraiment toutes les équipes. L'île du Prince-Édouard, je pense que l'appel avait duré une minute, honnêtement. Je m'attendais vraiment pas à sortir là, puis ça a donné que, tu sais jamais, là, puis mon nom a été appelé, puis tu sais, rendu là à cet âge-là, tu veux jouer n'importe où, là, c'est vraiment, c'était le fun, puis je savais pas à quoi m'attendre, puis ça a été vraiment des bonnes années.
J'aime bien les mots « tu veux jouer n'importe où » parce que j'ai l'impression que dans nos années, c'est plus trop ça. Les jeunes, j'espère que vous avez compris. Sinon, 2011-2012, tu fais l'équipe à 16 ans. Fait que pour toi, le step LHJMQ, comment tu as évolué? Comment aider ton adaptation?
C'est un gros step. T'sais, quand tu arrives à 16 ans, tu es déjà en plus. Quand tu arrives à l'Île-du-Prince-Édouard, tu sais que tu vas être loin de ta famille, tu sais que tu vas être loin de tes amis. C'est vraiment ta vie qui commence, qui est un peu solo, on pourrait dire. Là, tu rencontres du nouveau monde, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Mais c'était vraiment le fun, pour vrai. J'ai adoré le Prince-Édouard. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en allant au camp d'entraînement, mais c'était vraiment le fun. Puis ça a bien été, là, ça a bien fini. Mm-hmm.
Cette même saison-là, tu as pu jouer à Canada-Québec U17. Comment avait été ton tournoi pour ta part?
Ça a bien été. En fait, c'est une question de circonstances un peu. Je pense que, mais sans, si je me trompe pas, Duclair s'avait blessé pendant le tournoi. J'ai eu la seule chance de jouer dans les premiers trios. Puis là, j'ai pu un peu plus montrer de l'offensive dans ce tournoi-là. Fait que c'était bien, pour vrai. C'était une expérience. C'est vraiment une bonne expérience que les jeunes, tu sais, c'est rare. Que des fois, tu vas être appelé à aller jouer à des tournois comme ça. Fait que tu joues contre vraiment des bons joueurs. Puis tu vois justement le calibre de jeu. Tu vois où ce que tu en es un peu, si tu compares aux autres. Fait que c'était le fun. Là. On n'a pas gagné, mais on s'est rendu, je ne me rappelle pas, me semble, on a perdu en finale comme de consolation, quelque chose comme ça.
Mais d'habitude, c'est genre Canada rouge, Canada blanc. Mais là, c'est à cause qu'il y avait trop de joueurs québécois qu'on pouvait faire une équipe U17 Canada.
Mais il me semble que c'était divisé en trois, si je ne me trompe pas. Il y avait le Québec, Ontario, puis il y avait l'autre. Ouais, ça fait que dans le fond.
C'était divisé plus en trois.
Ouais, il me semble que c'est ça.
Okay. Parfait, t'en as parlé un peu, t'as dit Anthony Duclair. Il y avait aussi Jonathan Drouin, des gars encore actifs dans la Ligue nationale. Comment étaient ces deux joueurs-là à ce niveau-là? Ils étaient-tu déjà épatants et tout ça?
Ouf, à ce niveau-là, ils étaient incroyables. Ils sont encore, mais à ce niveau-là, comment ils dominaient ces gars-là, c'était beau à voir. Là, c'est des gars qui performaient tout le temps au niveau junior, qui scoraient des buts comme ça se pouvait pas. Il y avait tellement de talent. De faire partie de cette équipe-là et les avoir avec nous, c'était vraiment génial.
Seulement 18 parties la saison suivante, il y avait une grosse blessure pour ta part?
Ouais, ben en fait, c'est sûr. C'est le moins de 18 ans qui avait été Evaninka. Ça, c'est le premier tournoi moins de 18 ans. Okay. dans le fond, j'avais pas été invité, mais j'avais été invité à cause d'une blessure. Fait que j'étais rentré 50e joueur au camp d'entraînement. Puis j'avais vraiment la chance d'aller là parce que à cause de mon coach, c'est vraiment à cause de Gordy Dwyer qui avait fait l'appel à Team Canada pour dire donnez-y sa chance, puis on verra ce que ça donne. Puis quand j'étais au camp, j'avais même pas de tracksuit, même pas de nom sur mon chandail, même pas de bâton à mon nom, rien. J'étais même avec le tracksuit du coach à un moment donné parce que il y avait rien qui était. Je pense que c'était Cooper de St. John qui était pas rentré ou qui était blessé, puis lui il était bien plus grand et tout. Fait que je me suis ramassé que j'avais le tracksuit des coachs et tout. Puis finalement, ben ça a donné que j'ai fait l'équipe. Fait que là, j'avais été joué là-bas. Puis malheureusement, j'avais une blessure à l'épaule. Fait que quand je suis revenu du tournoi, ben il fallait vraiment que je prenne une décision. Je me faisais opérer au début de l'année pour avoir la chance de peut-être revenir. Puis c'était moins un draft. Fait que j'avais vraiment comme pas le choix de faire. Fait que j'avais pris l'opération. Puis j'étais revenu vraiment juste pour la fin de saison.
Okay. À part là du Ilinka Gretzky, tu as joué avec McKinnon, je me trompe pas aussi?
Ouais, j'avais joué avec. Oui, la première année, McKinnon. Mais eux autres, j'avais joué souvent avec eux pendant l'été quand j'étais plus jeune.
OK.
J'y connaissais un peu. Je le connaissais très bien, McKinnon, à cause des tournois d'été. Puis après ça, il y avait Domi, il y avait Duclair était là, Drouin. Tu sais, dans le fond, le premier tournoi de moins de 18 ans, c'est tout le temps la grosse équipe de Team Canada. Parce que okay, ouais, c'est les gars, c'est vraiment, il y a un camp d'entraînement qui se fait. Ils font vraiment la sélection des joueurs. Puis à la fin de l'année, tu as le deuxième moins 18 ans que ça, c'est tous les gars qui se sont pas rendus loin des playoffs. Puis là, ils vont faire le tournoi des moins 18 ans. Fait que c'est ça, c'était. Il y a bien des joueurs qui jouent encore une nationale dans ce premier tournoi-là. C'était vraiment le fun, une belle expérience.
Mm-hmm. Les questions sont un peu plus plates parce qu'on parle des autres joueurs, les autres vedettes, mais tu sais, pour toi, représenter ton pays, représenter le Canada, c'est représenter notre sport dans quelque chose qui est vraiment plus grand que soi-même. Fait que parle-nous de ce feeling-là un peu.
Ah, c'est vraiment un bon feeling. Tu sais, pour être honnête, ce tournoi-là, je m'attendais vraiment pas à faire partie de l'équipe. Tu sais, on va dire que tu regardes tous les joueurs qui vont au camp, tu regardes tout le monde, c'est tous des gars talentueux. Mais ça m'a vraiment permis, par exemple, de comprendre une chose au niveau du hockey, c'est d'essayer de faire qu'est-ce que les autres font pas. Dans un sens, tu sais, ma seule chance pour rentrer dans cette équipe-là, c'était de grinder, dans le fond. C'était un joueur fatiguant, un joueur qui avait de l'énergie. Fait que j'ai vraiment compris à ce moment-là que c'était peut-être ma seule chance de peut-être percer. Parce que, tu sais, si je me bats avec des gars comme Duclair, Drouin ou peu importe au niveau du talent, je veux dire, j'avais aucune chance de percer au hockey parce qu'il y a tellement de joueurs talentueux dans le monde qu'il faut quand même que tu sois capable de faire quelque chose que les autres ne font pas. Ouais. Puis c'est là que j'ai comme compris un peu la game. Puis c'est ça, c'est vraiment, tu sais, c'est là que tu te compares un peu, puis c'est là que tu comprends des choses, puis tu sais que tu es là pour une raison, puis c'est représenter ton pays. Puis c'est ça qui était aussi spécial aussi. Fait que, tu sais, de sortir de là en plus avec une médaille d'or.
Non, c'est ça.
Tu rencontres du monde, tu rencontres des joueurs talentueux, tu gardes un peu aussi contact avec eux. Fait que c'est vraiment spécial.
Hey Seb, je voulais rectifier le tir. Je voulais pas dire que la question était plate. Là. C'est juste
non,
que.
Non, c'est bien correct.
Je voulais pas avoir deux fois la question de demander tel gars est comment. Ouais. Aujourd'hui, on parle à Yann. Fait que pour continuer de parler de Yann, repêché en troisième ronde, 62e total par les Coyotes de Phoenix, tes discussions avec eux avaient été comment? Est-ce que c'est un peu comme aujourd'hui, tu sais, des questions qui n'ont pas rapport du tout au hockey, des questions pour te sortir de ta zone de confort? Puis est-ce que tu t'attendais un peu à sortir à Phoenix?
Zéro. Je ne m'attendais pas du tout à sortir là. Tu sais, on dit c'est ça, c'est tout le repêchage junior majeur et tout. J'avais zéro attente. Puis même, tu sais, quand t'es dans. Puis même là, moi, j'étais pas ranké. Vu que j'avais joué juste 18 games, j'étais comme ranké au bottom. Là. C'était comme s'ils m'avaient pas assez vu. Fait que, tu sais, c'était plus envers, je me fiais à mon agent un peu. Puis il savait que, tu sais, dans les trois premières rondes, ça pouvait, je pouvais sortir. C'est pour ça que j'avais fait, tu sais, souvent, il y en a qui vont, ils font pas le trip au repêchage parce que des fois, tu peux vraiment vivre une déception qui est plate, là. Fait que, mais eux, pour vrai, je me rappelle même pas de l'entrevue que j'aurais eu avec eux. Je m'attendais à sortir probablement ailleurs. Puis, tu sais, ils m'ont pas, ça a pas sorti, c'était pas hors de, ça a pas comme, c'était pas un entrevue qui était difficile ou autre. Là. J'en ai vu, l'exemple Boston, ça, c'était plus difficile. Il y en avait que c'était vraiment qui challenge, là, mais tu sais, c'est ça, là, au bout de la ligne, encore là, tu sais, n'importe où j'aurais sorti, c'était, je m'en allais là avec le sourire, puis j'étais bien content. Là.
On parle d'entrevue, c'est 8 monsieur bien habillés à cravate. Ton niveau d'anglais à ce moment-là, il est comment?
Il était pas si pire. Il était pas si pire parce que justement, toute mon enfance, j'ai vraiment joué avec des équipes, justement avec McKinnon, autre que, tu sais, j'avais pas su parler anglais. Fait que plus jeune, j'étais dans des équipes qu'il fallait que je sois capable de m'organiser en anglais. Fait que c'était bien correct. Mais, tu sais, Boston et tout, ça va tout le temps me rappeler, là, c'était. J'attendais sur le bord de la porte, puis je pensais que quelqu'un allait me chercher, puis là, finalement, je suis arrivé comme 10 minutes en retard parce que je pensais que c'était là, j'étais à la bonne place, mais finalement, non. Là, tu rentres, t'as tous les gars qui sont assis, puis ils disent, t'es en retard. Fait que là, t'es comme, ouais, là, ça part mal. Puis ils commencent à te challenger sur plein de trucs. Tu ta personne, t'es-tu comme ça, tu vas t'arriver en retard à tous les fois, puis là, ça, tu sais, ils challenge. C'est pas trop facile au début. Mais ils font exprès, puis c'est bien correct.
Ouais. Comment tu te rappelles de ton draft, toi qui étais là en présentiel? C'était où ce draft-là?
C'était à New Jersey.
Ok, New Jersey.
C'était vraiment le fun. Encore une fois, avoir toute la famille qui était là, tout le monde est descendu. J'avais des amis et tout qui étaient là aussi. Ça a été. C'était. En fait, moi, c'est parce que j'ai été sorti le premier de la troisième ronde. Okay. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'était comme on pensait qu'il y avait une pause entre les deux rondes. Fait que là, tout le monde, ben la famille, tu sais, tout le monde a attendu un peu que je sorte, mais là, tout le monde est parti aux toilettes. Là, moi, je dis, bon, mal aux toilettes, moi aussi, on va dire qu'il y a une pause. Là, mon agent, non, tu restes là, tu t'assois, puis t'attends. Puis d'un coup, tu sais, la TV, même la TV, là, tu sais, ben, c'est bon, je sais qu'il regardait le repêchage pour voir si j'allais sortir. Puis ça a donné que j'ai sorti le premier. Fait que il y avait comme eu trois pics, hein, même à TV, ils ont comme fait, il y a un Québécois qui a été repêché pendant la pause. Fait que, tu sais, dans le sens, c'est pas grand. Même toute ma famille est aux toilettes, ils l'ont entendu à le parleur, et tout le monde a comme manqué mon repêchage un peu, mais c'était correct, là, c'était le fun. Là, c'était une expérience qui est incroyable, là, que tu rêves depuis que t'es jeune, puis quand t'entends ton nom, c'est juste, tu le vis pour de vrai, là, puis c'est incroyable.
Je sais pas si tu l'avais déjà dit un peu. Je sais pas si tu avais des attentes de à quelle ronde tu sortais. Troisième ronde, est-ce qu'on compte ça encore assez tôt ou c'est quand même long à attendre dans les estrades?
Ben, tu sais, le style de joueur que j'étais, plus, mettons, j'ai joué 18 games. Honnêtement, tu sais, moi, j'avais aucune attente. C'était chaud, tu sais, n'importe où j'aurais sorti, n'importe quand, j'aurais été heureux. J'avais rendu là, tu sais, tu regardes, c'est sûr, quand t'es assis, là, tu regardes, OK, j'ai rencontré eux, ça a bien été, eux autres, ils ont parlé à mon agent, ils veulent venir me chercher, l'exemple, OK, Chicago vont faire un trade, ils s'en viennent te chercher à la fin de la 2, là, Chicago font un trade, là, t'es là, OK, ça se passe, ça arrive, là, tout d'un coup, boum, il y a un autre nom qui sort, là, t'es comme, OK, là, on passe au prochain, puis finalement, ben, tu sais, les Coyotes, c'est là que ils ont nommé mon nom, puis c'était vraiment le feeling, il était juste incroyable.
Te rappelles-tu un peu de. T'as-tu fait un cas des recrues avec eux?
Ouais.
Ouais, comment ça avait été?
Ça avait été. Tu sais, encore là, tu rends. Ben, quand ils recrutent, tu vois pas les pros sont pas là, mais on a joué les Gamers Concours, je pense que c'était un tournoi qu'on jouait contre LA. Puis c'est ça, tu vis quand même, t'es on était justement à l'aréna des Coyotes et tout. Fait que tu vois vraiment tous les trucs. Tu vois que c'est un autre game, là, comment c'est fait dans les chambres de la NHL et tout. Fait que c'était vraiment le fun. Là.
Saison suivante, 32 parties avec l'équipe avec les Islanders, qui était rendu les Islanders de Charlottetown à ce moment-là. Comment a été ta première partie de saison?
Ça a bien été. Moi, je pense que c'est le plus gros challenge que j'ai eu dans ma carrière, ça a vraiment été ça. Là, ils m'ont tous vu au niveau de Team Canada que j'étais un gars que, honnêtement, là, c'est dompe le puck, va le chercher, puis genre des avantages numériques. Puis, c'était vraiment juste côté grit, puis c'était vraiment un joueur qui avait quand même l'énergie. Là, tu arrives au niveau junior. Là, les coachs veulent que tu performes aussi au niveau offensif, mais ouais. Manager, avoir ces deux games-là ensemble, c'est comme presque impossible, honnêtement, parce que, tu sais, quand que tu gardes ton niveau tout le temps high, puis tu veux tout le temps comme être dans le fond, mais dans un sens, tu cherches à ralentir le jeu pour peut-être produire offensivement, puis essayer de faire des jeux. C'est quand même dur à gager puis à manager. Puis c'est ça qui a fait un peu des fois que c'était difficile, comme avec Gordy Dwyer. Tu sais, Gordy, ça a été un des meilleurs coachs que j'ai eu, mais ça a été aussi à ce niveau-là que c'était plus difficile, qu'il voulait que je joue avec cette grit-là, mais il voulait aussi que je produise offensivement. Fait que des fois, tu te perds un peu dans ton style de jeu. Mais c'était aussi une question de qui va pour la coupe, reconstruction haute. Bon, tu sais, le fit, fallait que... Et je pense qu'il voulait un peu reconstruire dans cette année-là. J'ai été échangé, puis tu sais, c'était bien correct. Là.
Parlant échangé au Tigre de Victoriaville, ce qui est, ben, tu sais, premièrement, dans le junior, tu arrives du midget. Au midget, il n'y a pas ça des échanges. Là, fait que tu comprends que ça commence à être une business, puis que les gars que tu as au début de l'année, ça se peut que tu ne finisses pas l'année avec eux. Fait comment tu as vécu ça, cet échange-là? Puis est-ce que tu t'en attendais un peu ou c'était carrément une surprise?
Non, je m'en attendais. Il y a beaucoup de choses qui se passent avant l'échange, honnêtement. Il y a vraiment. Des fois, ça se passe pas trop bien. Des fois, ça se passe bien. Moi, j'étais comme un in-between. Ça se passait bien, mais des fois, non. Fait que, tu sais, je savais que mon temps était un peu compté à l'île du Prince-Édouard. Puis toutes mes chums, toutes les vêtements, tout le monde qui était à l'île du Prince-Édouard, ils étaient comme tout échangés en même temps. Fait que, j'avais vraiment, c'était pas si près à partir de là parce que c'était tout du nouveau monde, c'était tout, même Gordy, il était parti pas longtemps après, fait que c'est la game, là. C'est au niveau du junior, souvent tu vas partir, puis c'était pas pour les mauvaises raisons parce que ils savaient que j'avais peut-être un petit peu de valeur, puis ils voulaient, moi je savais que je m'en allais dans une équipe qui avait des chances de gagner la coupe aussi, fait que tu sais, c'était un win-win aussi, puis j'avais pas de contrat encore de signer. Fait que dans un sens, je voulais performer aussi pour signer mon contrat. Fait que c'était bien correct.
Parfait.
Tu as joué 6 parties NHL après ta saison avec les Tigres. Comment tu avais trouvé le calibre de jeu?
Là, c'est un gros step. C'est un gros step quand tu passes de junior, puis là, tu avais juste 18 ans. Tu t'en vas dans la Ligue américaine, là, tu vois vraiment que la différence est énorme. Là. Tu joues contre des gars qui, des fois, sont in between NHL. Tu joues contre des gars qui ont 30, 35 ans.
Qui ont des enfants.
Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est une autre vie, là. Mais tu sais, le hockey est tellement, t'as tellement d'attentes des fois, pis t'as tellement de promesses qui sont faites à toi. Tu sais, exemple, quand j'avais été call-up, on pourrait dire, quand j'avais été à l'Américaine, normalement, quand tu fais call-up à cet âge-là, tu as un contrat qui vient avec. Tu sais, c'est sûr, certain. Ils te laissent pas de main. C'est rare qu'ils m'ont callé up un gars. Ils m'ont callé up, ils m'avaient dit que j'allais avoir un contrat, mais finalement, ça a donné que directeur général, assistant directeur général, ils ont tous été mis dehors cette année-là. Fait que tous les gars, ils avaient été me chercher, ils étaient plus là. Ils ont dit, OK, on va attendre un peu avant de te signer. Puis, tu sais, c'est là que c'est. Je suis sorti de là avec quand même une belle expérience, mais pas de contrat. Fait que t'es comme, tu sais, c'est une business. Là.
Après saison 2014-2015, encore un échange de Victo vers Gatineau. Il y a des joueurs qui passent leur carrière junior au complet dans la même équipe. Toi, c'est ta troisième. Fait que deux échanges en presque un an. Tu sais, comment on vit ça? C'est encore changer de famille, de pension, encore changer de groupe de chum.
Ouais. Ben, tu sais, encore une fois, c'était encore le fit du fait que tout le monde se faisait changer de Victoriaville. Ils voulaient vraiment rebuild. Fait que ils me disent, tu t'en vas à Gatineau, puis Gatineau, on avait une belle équipe. Cette année-là, il y avait vraiment des bons joueurs. Tu sais, il y avait Trennan qui joue en ce moment. Ouais. Tu avais Carrier. Il y avait plusieurs joueurs qui étaient, on avait une bonne équipe. Là, fait que moi, je m'en allais là, puis j'étais bien content. Il y avait bien de monde que je connaissais. Dans ce temps-là, Louis Marcotte, que j'avais déjà joué avec à l'île du Prince-Édouard. Tu avais Marc-Olivier Crémorin qui vient de où ce que je viens. Fait que, tu sais, c'était. Je m'en allais là, puis je connaissais déjà des gars. Fait que c'était parfait. La seule affaire, c'est que tu t'en vas quand même là, puis il y a Benoît Gros qui t'attend. Fait que,
ah non, c'est ça. Ben,
c'est différent, mais c'était correct.
Comment qu'il était comme coach? Tu sais, il est rendu. Non, je pense qu'il vient de lâcher son poste dans KHL là, dernièrement.
Ouais, j'ai vu ça passer. Je vais mettre un gros fit, là, mais tu sais, honnêtement, Ben, c'est un des meilleurs coachs que j'ai eu dans ma vie. Pour vrai, ça a été. Ce que j'ai à dire sur lui, c'est que ça a été le meilleur enseignant.
Mm-hmm.
Il avait sa façon de faire pour sortir le meilleur de tout le monde. Ouais. Il était hard, mais tu sais, c'est un autre game. Là. Je veux dire, quand tu arrives et tu te fais coacher par Ben. C'est différent des autres coachs. C'est ça.
Ah non, c'est sûr. C'est à moi, à toi, ou tu avais d'autres questions? C'est à moi, excuse. Saison de 20 ans, tu joues avec les Olympiques de Gatineau. À quel point une carrière dans Q, ça passe vite?
Ah, c'est ça va extrêmement vite. Là. Puis là, en plus, quand tu arrives à 20 ans, moi, j'avais été repêché en plus. Pas de contrat, tu finis ta lettre, t'es à 20 ans, tu reçois des offres universitaires, là, t'as même, mais avant ça, il y a même le junior 3 qui t'appelle, là, t'es comme, ouais, là, c'est-tu fini, tu sais pas trop ce que ça s'en va, ouais. Mais c'est une des années que tu t'enjoy le plus, là, t'es vétéran, tu connais la ligue, c'est vraiment c'est stressant, c'est sûr, parce que tu sais pas après, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend après, mais pour vrai, ça a été le fun là, de vivre ça, puis tu sais, d'être là pour les jeunes aussi qui rentrent dans la ligue, là, de conseiller les jeunes, d'être là pour eux autres, c'est vraiment de leur dire qu'est-ce qui leur attend un peu. Puis, mais j'ai vraiment eu du fun, là. Puis, je le regrette un peu. C'est là que tu réalises des fois que d'enjoy ton junior, parce qu'après, la vie, elle change, là. Tu sais, c'est facile, le junior. T'es bien traité. T'as pas grand-chose à gérer, mettons. Fait que c'est incroyable, là.
Tu sais, t'as quand même eu la chance de jouer deux saisons pour Benoît Groulx et avec Alexandre Carrier.
Ouais, c'est sûr. mais tu sais, Alex Carrier, c'est tellement un bon joueur, tellement de bonnes personnes, un bon leader.
Ouais, c'est sûr.
Il n'y a pas personne, j'ai jamais entendu quelqu'un qui n'aimait pas Alexandre Carrier en voulant dire que c'était. Il amenait beaucoup à l'équipe, puis en dehors de la glace, sa glace. Fait que moi, tu sais, Ben, tu t'habitues à un moment donné. Tu t'habitues à te faire taper sa tête, mais c'était correct. Là. Ben était capable de sortir le meilleur de lui-même. Fait que c'était correct.
Une question du public. Mathieu Duguay, quelle a été ta réaction face à la destruction du centre Robert-Gartin?
Ah, ouais, mais tu sais, moi j'aurais aimé ça voir. J'ai même pas encore vu le nouvel amphithéâtre. C'était différent des autres parce que, tu sais, les équipes que j'ai joué avec, le setup pour les joueurs, tu sais, à Gartin, c'était pas l'idéal. Mais honnêtement, jouer à Gatineau avec les fans. Puis, tu sais, c'était quand même moins gros. Fait que c'était souvent plein, puis l'ambiance, puis tout. Aller jouer, quand tu jouais contre Gatineau, tu le savais là, que ça allait être une toffe, là, que c'était, l'ambiance était incroyable. Fait que j'ai vraiment eu du fun à jouer là. Les partisans étaient incroyables, puis j'aurais aimé voir vivre un peu la nouvelle amphithéâtre, puis tout ce qui était mis en place. Là, j'ai su qu'il y avait bien des choses, là, puis c'est comme une aréna de pro. Là, fait que j'aurais aimé ça, c'est sûr, voir ça. Là.
Parfait. Pour continuer un peu sur la LHJMQ, là, moi, si je regarde ici, soit les prospects, soit HockeyDB, tu as joué 5 saisons et la GMQ de. Mais comment c'est possible ça?
Ben, tu sais, c'est de 16 à 20, fait que je suis rentré à 16, puis.
Et tu as fini à 21.
À 20.
Ouais, son année 20 ans, 17, comme moi. 18, 19, année 20. 16, 17, 18, 19, ouais, c'est ça.
Ouais, exact.
Il faut qu'il joue son année de 16 ans. C'est pas tout le monde qui a la chance de jouer à 16 ans aussi dans le Q.
Bon, ça, je voulais te parler aussi. C'est bon.
Ça, je voulais te parler aussi. Tu as joué le match Subway face aux Russes. C'était des parties intéressantes, ça aussi. Là.
Ouais, c'était une belle expérience. Puis en plus, j'avais quand même une bonne pression là-dessus parce que les moins de 20 s'en venaient. Mm-hmm. Tu sais, souvent, quand tu rentres dans Team Canada au début, tu as quand même t'as quand même une place qui peut s'ouvrir à toi, à vouloir dire que j'avais quand même des chances qu'on m'avait dit. Les scouts qui étaient là de Team Canada, ils étaient venus pour scouter justement ces matchs-là. Mm-hmm. Puis on m'avait averti, là, on m'avait dit que ces matchs-là, il n'y a pas grand monde qui venait voir. Puis j'en faisais partie des joueurs qui venaient voir. Puis malheureusement, j'ai essayé de trop en faire, puis je me suis blessé au genou à un moment donné en essayant de faire une mise en échec. Fait que mes chances ils ont été finies de rester là.
OK.
Non, c'est ça.
Finalement, tu apprends une mauvaise nouvelle que les Coyotes ne te donneront pas de contrat. Comment tu as appris cette mauvaise nouvelle-là? Comment qu'on réagit après ça? Puis comment qu'on ne perd pas l'espoir?
Pour être honnête, ça a été dur parce que surtout quand, tu sais, mettons, moi, j'avais Alan Walsh comme agent. Mm-hmm. Puis Alan, c'était un très bon agent. Pour vrai, c'est juste que, tu sais, quand t'es moins talentueux, puis que lui avait des gros joueurs, des gros noms, des fois, j'avais beaucoup d'attentes parce que tu te fais dire, ah, ton contrat s'en vient dans une semaine, ton contrat s'en vient dans deux semaines, ton contrat s'en vient dans trois semaines. Tu sais, ça n'arrêtait pas. Fait que là, à un moment donné, quand t'as tellement d'attentes au niveau du contrat, puis t'attends juste ça, puis finalement, ça se passe pas, ben, tu sais, à un moment donné, t'as une grosse déception. Et puis là, comme je disais, t'as les offres universitaires qui rentrent, t'as toutes les choses qui s'en viennent après ça, puis t'es comme, oh, OK, là, c'est, tu sais, je m'en vais où, là? Fait que, finalement, tu sais, ça a été correct, là. J'ai changé d'agent cette année-là. J'étais avec Claude Lemieux. Puis, ça n'a pas été long, là. Ça n'a vraiment pas été long après ça. Je savais qu'il y avait des équipes qui avaient des pourparlers. Il y en avait beaucoup qui étaient intéressés. Là, tu vois, OK, c'est un one-way dans eight, un entry level, tant de bonus. Puis, tu as un choix à faire. Mm-hmm. Puis là, j'avais eu comme l'offre de Vancouver que j'étais comme, OK, ça peut être un bon fit. Ils sont en rebuild. Puis en plus, l'offre qu'il m'avait offert, je veux dire, c'était, je ne peux pas vraiment excuser ça.
Non, justement, vas-y, Zach, excuse.
Moi, j'allais partir sur autre chose, là, fait que ça a rapport avec ça, vas-y.
Justement, c'était un contrat de 3 ans que Vancouver t'a offert. C'était un entry level pour la Ligue nationale.
Ouais.
Comment que tu as appris la bonne nouvelle, puis comment tu étais excité?
J'étais avec mes chums, puis j'ai reçu l'appel, puis. Mais c'était, comme je t'ai dit, je m'attendais à rien, là, en voulant dire que si je me fais dire, hey, Vancouver, il va t'offrir un contrat, puis il t'offre maximum. Puis là, t'es comme, hein, de quoi maximum? T'as pas de contrat, j'avais pas de contrat, j'avais pas tant d'offres, j'avais des offres, mais plus one-way, Ligue américaine. peut-être des entry level, mais avec pas de gros de bonus. Puis là, tout d'un coup, il m'appelle pour me dire « Hey, t'es maximum avec Vancouver, tu l'acceptes-tu? » T'es comme « Ben, ouais, c'est saute dessus. » Fait que c'est là que j'avais appris ça, j'avais été chez nous. Mes parents m'attendaient, puis c'était juste un relief. Là, c'était vraiment juste le feeling, c'était incroyable. Tu sais, tout ce que t'attends pendant toute ta carrière, puis là, tu te dis, OK, là, tu sais, t'es locked in pendant trois ans, puis tu sais que tu peux te prouver là, puis fait que c'était juste, c'était le meilleur feeling.
Parfait. Moi, je retourne au Coyote, Seb. D'un œil extérieur, je sais pas si ça t'a quand même un peu intéressé, étant donné que c'est l'équipe qui t'ont repêché, mais, tu sais, mettons, les Coyotes, ils ont eu des temps de misère, là, l'aréna à 5000 places qu'ils n'étaient pas capables de remplir. Maintenant, devenu le mammouth de l'Utah. Comment t'as vu ça un peu? Ça t'a-tu intéressé ou pas du tout? On passe à un autre appel.
Pas du tout, honnêtement. Les Coyotes, et après ça, c'était comme, je m'en foutais un peu. Là. Je focusais sur qu'est-ce qui s'en venait. Puis, pour moi, ce que j'ai vécu, j'avais quand même un peu, il y avait quand même une frustration au niveau de qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que les attentes que j'avais, que finalement, ça s'est pas passé. Puis, tu sais, j'étais quand même sorti troisième ronde. Fait que j'avais quand même, je me disais qu'il y avait quand même un bon potentiel. Puis, je me disais que ça aurait pu se passer, puis ça s'est pas passé. Fait qu'après ça, pour moi, je focusais plus que sur qu'est-ce qui s'en venait.
C'est bon. Parfait. Fait que première saison pro, t'as voyagé entre la ECHL et Utica. Te rappelles-tu de ta première game AHL?
Je me rappelle la première game hors concours, ça c'est sûr, parce que je m'ai battu cette game-là. Fait que ça, je m'en rappelais.
Avec Vancouver, ça?
Ouais, dans les Hurricanes. Celle, je m'en rappelle. Les autres, je veux dire, oui, je me rappelle un peu de tout, mais tu sais, ça se faisait vite, là. Quand j'avais été à... Tu sais, quand on parle aussi de timing, du bon... T'es-tu à la bonne place, t'es-tu dans le bon spot? Ça, c'était vraiment... ça a joué contre moi, honnêtement. Tu sais, c'était à Vancouver. Dans la Ligue américaine, c'était un peu un désastre, on pourrait dire, parce qu'on avait comme 5-6 lignes d'attaque ou d'un pratique. Là. Fait que, tu commences là, tu joues, puis là, ils disent, hey, tu comme un peu, tu attends ton tour. Puis moi, j'avais pas de style de jeu. T'sais, ils me connaissaient pas vraiment. Là, en voulant dire que quand j'étais dans. Puis ça, l'histoire avec à Utica, ça a été simple, puis ils jouaient pas. Fait que quand j'avais été à Vancouver, moi, ils m'avaient dit, tu vas avoir beaucoup de temps de jeu, tu vas jouer beaucoup, puis. Il me disait même presque que j'étais le prochain Alex Burrows là, dans le temps. Là, fait que, il me dit Alex finissait. Fait que, j'avais quand même des attentes. J'arrive dans les Mirkens, je joue pas gros. Puis là, j'arrive dans le camp, je suis au milieu du banc puis je joue pas. T'sais, fait que, encore une fois, quand tu prends l'opportunité, moi, le tough low boy, il s'en vient devant le banc puis il dit à notre tough, let's go. Puis mon tough, il dit non. Fait que moi, je fais comme, ben, moi, je vais y aller. T'sais. Fait que le coach, il me regarde, c'est Travis, puis il dit, de quoi tu vas y aller? Ouais, je vais y aller. Fait que c'était les tournois Leblon dans ce temps-là. Là, j'embarque, puis là, je suis devant les tournois Leblon, puis là, tu sais, je parle en français. Fait que là, je dis, hey, je vais y aller, moi. Fait que ce qu'il me dit entre le premier temps qu'on s'est tapé en face, là, quand je le voyais devant moi, je dis, OK, là, c'est notre game. Tu sais, j'étais habitué de me battre avec des gars de 18, 19, 20. Là, tu te bats contre un gars de 30 quelques années qui veut t'arracher la face, qui s'est battu 300 fois dans le pro. Ben, tu sais, après ça, c'est là qu'ils ont dit, puis je me rappelle, les Québécois, c'était Grenier et tout, ils m'ont dit vraiment, le coach, quand que j'ai fini la bataille, il a dit, ils viennent de faire l'équipe. Juste à cause de ça. Fait, on ne sait pas où je m'en allais, mais j'ai pris cette opportunité-là. Puis je pense qu'après ça, j'ai comme eu l'étiquette un peu de tough que je voulais jamais ça. Mais je voulais dire, j'avais d'autres choses à emmener. Fait que quand j'ai commencé la saison, je ne jouais pas beaucoup. Je me pognais une fois de temps en temps. Puis là, à un moment donné, je me suis battu, je me suis déchiré le pectoral. Fait que les mondiaux, quand que j'ai fini comme c'était un mois, je pense, Maria, puis ils m'ont dit. là, c'est le All-Star Break. Fait que tu vas aller pendant l'All-Star Break, tu vas y aller, tu ne manqueras pas de game, peu importe. Puis dans deux semaines, on va tu vas revenir. Fait que là, j'avais été rejoindre l'équipe de la East Coast. Puis après deux semaines, j'étais revenu. Mais quand j'étais revenu après ça, ils m'ont dit, là, eux autres, t'sais, comme, il y avait des gars de l'universitaire qui venaient, peu importe. Fait que là, on était comme 5-6 lignes à l'aréna. Ils m'ont dit, c'est sûr, tu joues une game sur 3, une game sur 4, ou tu t'en vas jouer comme dans la East Coast, puis tu vas jouer, tu sais. Puis moi, j'étais comme, bon, ben, gars, je vais prendre l'option d'aller dans la East Coast. Là. Je veux dire, être tout le temps sur le banc ou dans les estrades, c'est pas l'idéal. Fait que j'avais été là. C'était correct. C'est un autre game. Là. Les gars sont différents. Ils ont pas la même mentalité que les gars dans la Ligue américaine, mais j'ai eu du fun. Là. En Alaska, même, que je te dirais que j'aurais dû plus accepter. Mais c'était assez spécial. Là. Quand tu te lèves le matin à 8h, il commence à faire clair, tu arrives à l'aréna, mais quand tu sors à midi, il fait encore noir. Fait que là, t'es quand même, c'est déprimant être ici, mais tu sais, j'ai quand même eu du fun pareil avec les boys et tout, mais c'était un autre game. Là, je veux dire, tu te sens pas à ta place, tu sais, surtout quand tu es comme un entry level, tu te dis comme, tu sais, je devrais être ailleurs. Puis tu sais, si j'avais pas passé là-dedans, si je perds des gars qui sont dans les scores, je leur dis, tu sais, enjoy ou genre, tu sais, mais t'as pas dans la tête que t'as pas d'affaires là, parce que même les gars vont sentir ça aussi. Tu sais, c'est pas une bonne chose d'arriver là-bas puis être au-dessus de tout le monde puis dire juste, hey, j'ai pas d'affaires là, c'est quand je me fais call up, peu importe. Puis j'ai comme fait ça un peu là-bas puis j'ai comme enjoyé un peu au moins mon année là-bas. Puis tu sais, ils m'ont même callé up. Vancouver m'a callé up de la East Coast pour aller jouer une game dans une nationale aussi. Fait que.
Et ça, ils t'ont jamais donné la chance de jouer cette game-là? Ou?
Ça, c'est une autre histoire. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme vraiment des bad luck. Là, quand j'avais été call-up à Vancouver, ils m'ont dit tu joues. Fait que j'étais dans le line-up sur Internet, Twitter, n'importe où. J'étais dans le line-up, puis ils m'avaient dit tu vas jouer sur la 4. Fait que j'arrive là-bas. Je fais tout ce que les rookies font. Au fond, j'ai fait mon lap, moi, j'ai fait mon tour, j'ai mis de l'argent sur le board, n'importe quoi. Puis il y a un gars qui vient me voir et qui me dit c'est moi qui ai blessé un russe. Puis je peux même pas me rappeler du nom de ce gars-là. Puis il m'avait dit c'est moi qui décide un peu si tu joues parce que c'est moi qui ai blessé. Mais il dit c'est ta première game. Puis là, je dis ouais, c'est ta première game. Il dit bon, ben, good luck. Puis quand il était revenu du warm-up, le coach était. Il est rentré puis il a juste dit I'm in. Fait que là, j'ai juste compris que je jouais pas. Fait que je me suis juste déshabillé puis ça a été la seule chance. Puis je sais pas, je l'ai pas eu.
C'est un peu chiant là, quand tu fais sur tout ton rookie lap là, puis t'arrives.
Ouais, ben, le peu, c'est que ça, je vais tout simplement rappeler, les Sedins s'avaient levé, puis il avait sacré, puis il était comme, c'est quoi cette affaire-là, puis même le monde autour était comme, c'est quoi, what the fuck, genre, c'est quoi qui se passe, tu sais, puis t'es rendu là, tu peux rien faire, là, tu te déshabilles, puis tu sais, j'ai voyagé avec l'équipe après dans le jet, puis j'ai vécu un peu la vie pendant deux jours d'un gars de Ligue nationale, mais ça a été ma seule chance.
Fait que finalement, c'est ça. C'est monsieur, le russe, que tu te souviens pas du nom, que lui a décidé que finalement il était correct pour jouer.
Ouais, exact. Puis il a dit, je pense qu'il joue 3 minutes et demie dans le game. Fait que.
Ça, c'est chiant, mettons.
Ouais. Fait que, c'est ça.
Je me bats pas avec mes coéquipiers. Je pense que je l'aurais fait.
on a parlé un peu de Travis. Travis Green, il t'a entraîné avec Utica. Comment il était derrière le banc?
Ah, moi, j'ai adoré, mais tu sais, lui, pour vrai, il m'aurait vraiment respecté. Il savait, tu sais, c'est tellement de business, là, je veux dire. Ouais. Tu sais, une fois, il me dit, tu joues à soir, tu sais. Fait que là, ça fait 4 games, j'ai pas joué, j'étais à la pratique. Puis là, t'es comme, OK, j'ai à soir, OK, tu te prépares mentalement, passe la journée, fais des affaires, tu fais la routine, puis là, j'arrive à la game, puis là, après le warm-up, il me rencontre, puis il dit, hey, tu veux juste te dire, il dit, le call, il vient pas de moi, mais tu joues pas à soir. Fait que, tu sais, puis il me dit, juste te dire que j'ai jamais rencontré un joueur dans ma vie pour lui dire qu'il jouait pas. Pis c'est juste pour te montrer à quel point j'ai du respect pour toi, mettons. Fait que, tu sais, pour moi, Travis, je savais qu'il avait du respect, tu sais. Fait que, puis même là, moi, je me. des fois, j'étais rough, là. Fait que quand je suis sorti du bureau, il me dit, hey, Pav, je me suis retourné, il dit, tu fais-tu le warm-up? Puis je l'ai regardé, j'ai dit, fuck you, puis je suis parti. Puis, tu sais, dans sa tête, lui, il est parti à rire, puis il a juste dit, hey, ça, il savait que je voulais jouer, tu sais. Mm-hmm. Puis, dans pratique, il m'envoyait premier d'un drill, puis dernier avec un autre gars qui était tough un peu pour, tu sais, partir, mettre de l'énergie dans un drill et tout. Fait que, tu sais, il m'utilisait pour ça, mais il savait qu'en plus, je jouais pas le soir ou que je jouais dans la game, la prochaine game. Fait que, il y avait beaucoup de respect pour moi, puis j'ai vraiment apprécié justement ce côté-là. Tu sais, c'est là que ça m'a fait un peu accrocher un peu à dire lâche pas, puis tu sais, ça va peut-être venir un jour, puis c'est sûr. Mm-hmm.
Parfait. Malheureusement, juste 5 parties en 2017-2018. Est-ce qu'on peut dire que l'heure de la retraite avait sonné?
Ben là, c'est ça. Là, après ça, ça a commencé. Là, c'est là que ça a commencé à bien aller. On m'a dit que quand j'étais au camp, ils m'ont donné une game hors concours. Ça a bien été. Justement, je m'avais pogné à Edmonton. J'étais dans l'avion. Puis après ça, j'avais rencontré. C'est là qu'ils coupaient les joueurs dans l'avion. Tu allais en avant. Puis il y avait le GM était là. Puis tout. Puis ils m'ont coupé. Puis ils m'ont juste dit là, cette année, tu vas avoir beaucoup de temps de jeu. Puis on va te donner ta chance. Puis ça a vraiment arrivé, là, genre les premières games, je jouais beaucoup. Puis là, c'est là qu'on était à Laval, on jouait contre Laval. Puis je commençais vraiment à avoir ma place. Ils voyaient que c'était pas juste pour me battre. Puis finalement, ben je me suis battu. Puis je me suis blessé. L'épaule a juste débarqué pendant le combat. Puis c'est là que les problèmes d'épaule ont commencé après ça.
OK.
Bon, fait qu'on va être prêt à passer au deuxième segment, la mise en échec. Yes, te rappelles ton moment de bienvenue dans la GMQ, ça peut être, si tu te rappelles ta première présence, ton premier but, un jeu que tu te rappelles de...
T'as peut-être déjà scoré dans ton net, t'as peut-être eu l'air fou...
Non, mon moment, il y en a un moment donné que je suis arrivé à Drummond, tout le monde tenait les estrages, j'embarquais avec mes protège-lames, j'ai tombé en pleine face. ça a été un des premières games en plus. J'ai eu l'air total, le crowd, tout le monde me criait dessus après. Mais un des meilleurs moments, je pense, c'est ma première bataille, en fait. Ma première bataille, ça a été. C'est là que j'ai pris goût, je pense. Là. Fait que, tu sais, on était à l'université, on jouait contre St. John, que cette année-là, il y avait 19 gars dans la gang qui avait un camp pro, puis c'était toute la gang, là, Huberdo, Yurko, Gauthier, c'était tous des bons joueurs, puis on perdait, puis Manny Gordy a juste dit, il a collé tous nos toughs, puis il m'a dit, Pav, tu es où? Fait que là, tout le monde fête, c'était comme une fête générale, puis là, moi, j'étais là, puis j'avais un gars, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis il y en a un dans mon équipe qui m'a dit, ah ouais, let's go. Fait que j'ai droppé, puis là, ça a vraiment bien été, fait que là, après ça, je m'en vais dans la punition, mais là, je suis comme 5e bataille, fait que t'es out de game, là, on va dire, c'est sûr. Puis là, quand j'ai traversé la glace, puis là, tout le monde est... Les estrades étaient debout. Je suis comme, OK, ouais, là, j'avais plus ça que scorer un goal, mettons. C'est là que ça a commencé.
OK. On a entendu dans plusieurs podcasts là, des ceux qui l'ont fait beaucoup dans NHL dire qu'ils avaient peur. Tu n'as jamais eu cette peur-là de savoir que tu t'en allais te battre. Tu aurais pu, tu sais, une Judge Paris en genre 2014, là, ça aurait pu arriver.
Non, il y a peut-être une fois que je me disais, tu sais, exemple, dans les Américaines, là, dans le temps que je me disais, c'est ça ton rôle, t'as pas le choix. Là. J'avais joué avec un gars, en plus, ce gars-là, c'était Alex Galland. Fait que là, t'es comme, la veille ou peu importe, j'ai dit, OK, là, je joue, puis j'ai pas le choix. Là. Fait que, tu sais, je me préparais. Là, j'étais nerveux un peu parce qu'il est très tough. Là. Puis là, tu te prépares, puis là, oui, j'avais la chienne un peu. Là, j'arrive au fait ça, puis je dis, ah ouais, on y va. Puis il me regarde du nom. Fait que, tu sais, pendant 2 jours de temps, t'es comme, tu te prépares à te battre, puis finalement, tu te bats pas. Fait que là, t'es comme, oui, c'est peut-être cette seule fois-là, mais moi, on voulait en dire que, je sais pas, je pense que quand c'était le temps, il y avait une switch qui tournait, puis j'étais comme, je pensais plus à rien.
Okay. Tant qu'à parler de bataille, on peut-tu parler du premier combat de Florian Jacquet? C'était assez exceptionnel. Le gars, en plus, qui allume la foule après, là.
Ah ouais, ça, c'est des moments de même que c'est incroyable. Moi, c'était mon meilleur feeling, c'est ça, quand je me battais, honnêtement, parce que tu sais que la foule, elle adore ça, là, puis c'était, tu sais, juste lui, un jeune qui arrive, puis qu'il va, puis qu'en plus, tout le monde te regarde, tout le monde a un peu les attentes, puis là, tu crisses une volée au gars, ben c'est juste, c'est incroyable, là.
J'aime ça, moi, Chris Envoli. L'autre, sa visière a saigné, tabarnak.
C'est ça.
Jacka, il y a Chris Envoli. Parfait. T'as rappelé-tu, Seb, le premier but, c'est dans la GMQ?
Ouais, ouais.
Parfait. T'as rappelé-tu des joueurs sur la glace avec toi à ton premier but?
Honnêtement, non. Je ne me rappelle pas de mon premier goal. Ben, je pense que ça doit être un garbage du bord du net, là, mais on peut en dire que. Ah non, je ne me rappelle pas qui était là.
Parfait. Moi, j'essaie de dire les noms sans trop les démolir, mais c'est pas des noms bien faciles, c'est bon? Michael Abbott ou Michael Abbott.
Ouais.
Dylan C. Kapstick.
Ouais.
Kelly Bent.
Ouais.
Et tabarnak. Devrick Oterize.
Oterize. Ouais, ça veut dire que c'était à 4. Ça, c'est, on jouait ça à 4. Ouais, ça devait pas être un gros goal. Mais ouais. C'est...
Et gardien Robin Gus.
Ouais, j'ai aucune idée. Je ne me rappelle pas pour rien. J'ai pas fait de
mal. Y a-t-il une anecdote de vestiaire que tu peux nous partager? Ben, le sans te faire chicaner. Tu peux pas te faire chicaner.
Il est rendu à 30 ans.
Ouais, non, c'est ça.
C'est une anecdote. J'en ai plusieurs, là, mais peut-être une qui me vient en tête. Là. Mon premier road trip qu'on était à l'Île-du-Prince-Édouard, on s'avait ramassé deux recrues dans la même chambre et on s'est fait abuser. Là, on va dire qu'il n'y a rien qu'ils ont pas, ils nous ont pas fait. Là, des bacs d'eau sur le bord de la porte, cogner le bac, la porte ouvre, le bac tombe dans la chambre. Fait qu'il y avait de l'eau partout. Des enveloppes de crème arrosée qu'ils mettaient en dessous de la porte, ils sautaient dessus, tout en voyant notre chambre. Le pain qu'ils ont fait, là, pis ça, je l'ai utilisé souvent après ça dans ma carrière junior, là, c'est que je m'en vais aux toilettes, puis j'ai fini, puis je fais une flusher, fait que je suis debout, fait que quand je flush, les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé le cap, puis ils ont sorti le petit tube, puis ils l'ont sorti vers moi. Fait que quand j'ai flushé, mais l'eau, elle s'est mise à sortir sous moi, mais là, ça sort partout, il y a de l'eau partout, mais là, je sais pas quoi faire avec ça. Dans le fond, il faut que ça se remplisse, il faut que ça arrête la toilette. Fait que tu sais, je suis comme, j'ai le tube, là, je le tiens, je le mets dans le bain, tout, là, on sait plus quoi faire. Fait que là, ça a commencé de même, là, à un moment donné, là, on recevait encore des bacs d'eau, on avait il y avait un lacet qui était accroché après nos portes, on pouvait plus ouvrir notre porte, on se faisait vraiment abuser. Fait que là, chose à ne pas faire, on a voulu se venger, mais en recrue, tu ne te venges pas, honnêtement, tu fais juste le prendre, t'arrêter, là. Fait que nous, on s'est dit, on va aller dans la chambre des gars, puis on va aller refaire, tu sais, on va aller mouiller leur affaire un peu. Mais eux, ils savaient qu'on s'en venait. Et ils nous attendaient avec des bacs d'eau. On rentre là. On se fait tout lancer les bacs d'eau dans la face. Puis finalement, on a reçu un bill. On a reçu un bill de l'hôtel parce que notre tapis était tellement... Il avait tellement été mouillé qu'il a levé. Mais là, nous, on fait pas une scène. Là. On n'a pas une scène. À 16 ans, on faisait 67 piastres sur deux semaines, je pense. Fait que les vêtements, faut vous payer votre partie. Là, on est là, voyons donc. Si là, je suis comme, qu'est-ce qu'il m'a protégé mon père pour qu'il me transfère de l'argent parce que si j'ai pas une scène, là. Fait que finalement, il avait payé, je pense, les vétérans. Tout, mais c'est pas mal. Je pense que c'est une des anecdotes qui m'en vient en tête. Là.
Je pense qu'il y en a eu des pires que ça, mais ça montre la vieille et la GMQ. Puis c'est de l'abus, là.
Ouais,
au moins, ils ont payé, là. C'est de leur fait.
J'étais les dernières années, je pense qu'il y avait encore ces initiations-là, mais tu sais, moi, c'était pas. Ils ont été corrects avec nous autres là, cette année-là.
Okay.
C'est bon. Fait qu'on va passer au dernier segment, l'étude de barrage.
Le segment Tir de barrage est une présentation de Steve Lord, représentant de Molson Coors. Bonne écoute.
Tir de barrage. Parfait. Tir de barrage, couple de questions, Raphaël, pour toi. Après, on te laisse passer une belle soirée.
Yes, sir.
Yes. Quel joueur tu regardais quand tu étais plus jeune?
Patrick Kane, je l'aimais beaucoup. Il était beau à regarder. J'aimais vraiment son style et tout. Tu regardes souvent quand t'es jeune, tu regardes les gars skills. Là. Avec lui, c'était pas mal.
Un joueur à qui tu te comparais?
Avec le temps, à la fin, c'était pas mal Antoine Roussel. Quand je t'ai rendu plus haut, là, c'était pas mal à lui. C'était pas mal mon modèle.
Un entraîneur qui t'a fait évoluer.
J'en ai beaucoup. Gordy Dwyer était une des personnes qui est un bon coach. Bruce Richardson, lui, a été une personne qui m'a fait aimer, on pourrait dire, le hockey, qui était passionné, que lui, il comprenait un peu plus ma situation. Il était vraiment correct avec moi. Puis, tu sais, Ben, je peux pas enlever Ben non plus. Ben, il me quand même. Il a fait en sorte que je ne pouvais pas voir pire au niveau du coach, au niveau de. Comment un coach peut être hard sur un joueur, fait que lui avec, je veux dire, je peux pas enlever.
Yann qui fait pas du hockey, il fait quel sport?
Golf.
Parfait. Ça va avec notre question. Foursome de golf de rêve, ça serait qui tu peux nommer? Célébrité, personne décédée, name it.
Je te dirais, ben, Tiger Woods, c'est sûr. Sûrement Kevin Hart, on aurait peut-être, pour moi, on rirait. Puis je dirais mon père aussi.
Parfait. C'est bon. Avais-tu un je suis en train de tout poser les questions.
Avais-tu un rituel d'avant-match?
Moi, c'était. Ben, j'étais pas mal dans ma bulle. J'étais dans les estrades pas mal. Puis je m'habillais tout le temps. Il était comme il restait 8 minutes avant d'embarquer dans le warm-up. Là.
OK.
C'est un peu large, mais y a-tu un joueur underrated avec qui tu as joué?
Underrated. Ben, je te dirais qu'aujourd'hui, tu sais, mettons, Joe Drouin, il y en a bien qui ont eu des mauvais commentaires envers lui dans le passé, mais ce gars-là, le talent qu'il a, c'est incroyable. Je veux dire, il a tellement de talent, puis il était peut-être pas dans un bon fit, mais ce gars-là, c'est incroyable.
Il a l'air d'aller bien, là, aux Islanders.
Ouais.
L'équipe, ben non. Ben, en tout cas, plusieurs joueurs.
Il n'y a pas de meilleur fit encore, mais je veux dire, il performe pareil.
Ouais, exact. Un aréna que tu as aimé jouer.
Québec, je m'appelle ça. Québec, ça a été c'est le fun, gros junior. C'est vraiment un game changer. Là, quand tu regardes les autres arénas, puis là, tu arrives là, c'est. Il y a une personne dans les estrades. Je veux dire, c'était vraiment le fun. Là.
Ça ne sera pas bien long.
Entre Québec et Halifax, laquelle qui est plus grosse? C'est-tu vraiment. C'est-tu la même ligue ou Québec est vraiment.
Québec.
Québec. Ouais. Okay. Halifax, c'est juste. Le monde nous dit que l'ambiance est bonne là-bas. Là. Les partisans sont dedans. Là.
Ouais, mais le Québec, c'est comme. Quand tu es jeune, tu y vas, tu vas voir un rempart, puis tout. Puis quand tu es sur la glace, c'est un autre game. Là.
Ok.
Que dirais-tu au jeune Yann de 16 ans?
D'enjoy. D'enjoy toutes les années juniors. D'enjoy tout le temps que tu es au hockey. Mm-hmm. C'est pas facile souvent dans ta carrière que souvent tu ne t'attends pas dans l'aréna. Mais quand tu vis la vraie vie après une carrière puis que tu es payé de l'heure et autres, je vais te le dire, tu te rends compte que le hockey, c'est facile comme vie, on pourrait dire, ben facile. Facile au niveau de l'argent que tu reçois puis l'heure que tu passes à l'aréna, fait que d'enjoyer tous les moments.
Si tu as le droit de le dire, tu as le droit d'en parler, ton après-carrière, c'est quoi? Comment tu l'as trouvé?
Ben, ça s'est bien passé. En fait, j'ai eu une chance de rentrer représentant dans une grosse compagnie en vente. Puis j'ai parti un golf intérieur avec mon père aussi, puis la famille, fait que ça continue, on roule ça, puis c'est vraiment le fun. Là, on a vraiment du fun avec ça, fait que pour vrai, j'ai trouvé un bon après carrière que j'adore.
Parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite?
du succès avec ce business-là. Puis c'est pas mal ça.
Tu peux la plugger si tu veux, c'est à quel endroit
ce business-là? Dans le fond, c'est le Vestonvert. C'est un golfeur qui est situé à Saint-Martin. Qui est pas comme les autres golfeurs intérieurs. L'ambiance, on a des DJ, on a des chansonniers qui pendant les soirées, on a des grosses soirées, on a une grosse vie qui est comme de membres aussi, il y a des membres qui sont là, fait que c'est vraiment du fun, c'est vraiment le fun à la boule.
Okay. Un gros merci Yann pour cette heure très intéressante, on a eu bien du fun avec toi et on te souhaite un bon succès pour la suite.
Ben, merci boys, puis bon succès vous autres aussi.
Merci, bonne soirée.
Yes, sir, salut.
Yes, très intéressant le gars, super smart. Puis, il a dit la vérité, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il s'est fait promettre, puis c'est ça.
Puis il dit que Jacka, il a crissé une volée.
Il a crissé une volée, ouais, la visière en scène, c'était bon ça. Puis aujourd'hui, on n'a pas de match canadien, fait que ça tombe bien, le ref, il est là pour parler.
Tant qu'à pimper ton popcorn plate, achète Monsieur Céclate.
Ok, les deux gâteaux.
Hey, salut les boys, comment ça va?
Ça va bien,
toi? Ah oui, ben oui, ça va, certain. Très bons invités, très bonnes invitées. Bref, super intéressant. Yann Pavel Laplante. Écoute, pour vrai, là, je suis allé voir son année de naissance, mm-hmm. puis j'ai regardé aussi les années que Pavel Bourré joue dans la Ligue. Je me demande si son nom, ça n'a pas rapport avec Pavel Bourré. Je sais pas. Écoute, j'étais en arrière là, puis je me mettais à penser à ça. Là, le gars, il est né en 95. Pavel Bourré a commencé dans le national en 91-92. Ah. Il y aurait peut-être un lien, peut-être, on ne sait pas. Regarde.
J'aurais pu poser ta question, il aurait demandé.
En même temps, c'était pas super pertinent. Bref, on va parler un peu des Canadiens. Bon, non, je parlerai pas de Jack High, là. Écoute, oui, c'était super, la mise en échec. Mais il y a d'autres choses.
La mise en échec, la bagarre.
Tu sais, j'ai dit, c'était super. C'était super pour le jeune. Bon, il y a quand même eu une belle ovation. Après ça va encore. Non, mais je veux quand même parler d'un début de Dobson. Écoute, le jeu, là, c'était wow. C'est un court vidéo, puis c'est un petit vidéo de RDS, là, mais bref, on monte ça. Fait que, j'ai dit RDS, c'est même pas RDS, c'est un petit tacto en slow-mo, finalement. Écoute, l'angle est très intéressante aussi. Fait que, écoute, de Slav, on entend Demidov qui, hey! Fait que Demidov reçoit la puck, repasse tout de suite à Dobson. Crie ça dans le net. C'était super hot comme jeu. Mathieu Duguay qui nous dit, c'est weird, mais l'article que je fais, il a une passage qui parle de l'invité de ce soir. Good, mais c'est bon, Mathieu. Merci beaucoup.
Le lien du podcast.
C'est très, 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 très pertinent. je voulais aussi juste parler un peu de football avant de passer aux autres points. Football. Bon, oui, là, ça donne, Zach, là, tu vas m'accuser de favoritisme. C'est pas ça. Parce que c'est un... le match de Dallas contre Philadelphie. Mais juste que vous regardez le gars, c'est une recrue. Écoute, il se fait plaquer, puis il se fait replaquer une deuxième fois, puis là, il continue. Puis finalement, c'est lui qui réussit le jeu, qui fait un échappé. Et puis, dans le fond, ils ont gagné à cause de ce jeu-là, parce que là, après ça, les Cowboys ont pu aller faire un toucher.
It's all these years I've tried to get. Look at that hustle. Who wants to be a gunner in the NFL? Not me. But Clark, relentless effort, just great hustle, and then causing a massive turnover there. Great team effort. What a hit by Clark.
Clark and Bell in there. Gibson is still down on the ground for Philadelphia.
C'est quoi ça? C'est un retour de beauté?
Oui, c'est ça. Un retour de beauté. Fait que là, ben écoute, et, il voulait aller chercher, il voulait aller plaquer, mais là, écoute, il se faisait bloquer une fois à terre, là, une autre fois, écoute, il a pas été à terre, mais non, il a failli. Fait que là, ben c'est ça. Il continue sa course, va plaquer le receveur des Eagles qui échappe le ballon, cause le fumble. Les Cowboys donc récupèrent le ballon, puis tout de suite après, il y a eu le toucher de Dak Prescott qui a égalisé le match.
Il doit avoir couru, hein, parce que lui, ses passes, si personne les attrape.
Mais là, il a quand même fait un touchdown pass là, pendant le match, mais celui-là, oui, le touchdown juste après, il l'a couru. Donc, les Eagles qui menaient 21-0 à la mi-temps, ils ont perdu 24-21, donc les Cowboys ont fait un retour. Bref, tout ça, puis on s'en va à l'ovation du F. Avec l'ovation du F, hashtag remplissons les arénas. Qu'est-ce qui s'est passé de beau cette semaine? On s'en va, le match Chicoutimi-Halifax. Émile Guité, Maxime Massé. Bon, oui, ils se sont affiliés, on va le dire de même, pour faire un beau but. Sauf que je veux que vous regardez la pression, donc l'échec avant qu'ils ont mis sur les joueurs des Mooseheads, qui fait que le but a été possible.
Peut remettre à Boulanz. Boulanz, toujours avec la rondelle, envoie devant pour Massé qui garde le disque, qui dégage à l'autre bout. La rondelle est déviée, revient sur le bâton du défenseur des Mooseheads, Minella. Minella a une passe qui est captée alors que Massé a frappé solidement Minella. Attention, 2 contre 0. Massé avec Guité, Massé à Guité, son tir en but. Émile Guité, c'est 2-1. Mais quel travail, Jonathan, de Maxime Massé en échec avant.
Très bonne anticipation de la chose pour Maxime Massé. Là, était en espace restreint, mais était en mesure de récupérer cette rondelle-là pour la remettre à Émile Guité, qui va marquer son 13e but cette saison. Ne faut pas laisser Émile Guité fin seul. Et Maxime Massé a juste attendu assez avant de remettre à son compagnon sur le flanc gauche. Et puis Guité qui a de jouer quand même assez facilement,
je voudrais dire, Owen. Ça revient à Boulanz.
Fait que dans le fond, là, Guité, c'est ça. Guité met de la pression sur les joueurs, sur le joueur des Mooseheads. Puis écoute, il est tellement fatiguant que finalement, ben, il décide qu'il fait une passe. Sauf que qui c'est qui attendait, c'est Massé. Massé attendait. Il a récupéré la rondelle. La passe à Guité. Fait que, donc, l'échec avant qui a permis de faire un but, de prendre les devants 2-1. Puis le score final a été de 9-4 là, pour les Saguenayens dans ce match-là.
On peut-tu parler de la game de 12-1 des Saguenayens? Je pense que c'était contre le Drakkar. 12-1, je suis comme « what the fuck ».
Oui, ouais, c'était contre le Drakkar, oui.
Ça va un peu n'importe où.
Oui, mais on n'en parlera pas, OK?
Non, il ne faut pas parler de...
bref, on va passer au moment. Tu ne peux pas faire ça de la semaine, donc « you can do that moment de... ». Donc, le 10 minutes d'inconduite de la semaine, écoute, bon, j'ai pas, honnêtement, là, j'ai pas eu le temps de regarder comme faut toutes les séquences, mais je me suis fait plaisir, j'ai fait plaisir à tous les partisans des Canadiens, parce que le You Can Do That moment de la semaine, je donne ça au Maple Leaf de Toronto. Pourquoi? Parce que le classement de l'Association de l'Est, donc les Maple Leafs qui sont en bas des Sabres de Buffalo avec le même nombre de matchs, un point de moins. Fait que, bref, le 10 minutes de la semaine va à Austin Matthews et ses Maple Leafs. Écoute,
Austin Matthews sur la liste des blessés, tu as un 10 minutes pareil.
Oui, mais garde, c'est à lui à pas se blesser. Tu sais, sérieux, regarde, fais attention à ce que tu fais, là. Sois prudent, mon petit loup. Tu sais, bon. Mais pour vrai, écoute, tu sais, bon, Marner, c'est là qu'on voit qu'il y avait trop d'argent, mettons, pour les 3-4, les 4 top stars à Toronto. Pourquoi? Ben, écoute, parce qu'il n'y a pas personne qui veut aller signer là. Il y en a un qui s'en va, puis bang, mais là, regarde, son dernier. Fait que tout ça pour ça, on va passer aux trois étoiles de la semaine dans nos chroniqueurs. Donc, la troisième étoile, le third star, Vincent Léveillé. La deuxième étoile, le second star, Camille Jean Tondreau. Et la première étoile, le first star, Nicolas Mercier.
Non, c'est Nicolas Husky Mercier.
Ouais, ouais. Mathieu qui nous dit qu'il pensait que ça aurait pu être la passe de Marner contre les Ducks. Ça aurait pu, c'est vrai, je l'ai vu aussi. Mais écoute, c'est ça. Là, je trouvais ça plus drôle de rire des Leafs que de Marner tout seul. Parce que lui, au moins, il a compris, il est parti.
C'est Dakota Joshua à la fin là, qui est allé chercher Jack Eye. Il reste 2 secondes. Chris Tonkin, va pas finir un hit.
Ouais. Il reste 2 secondes, puis Jack Eye est là, il attend, puis l'autre, il va faire une mise en échec.
Le 10 minutes aussi, il va à ceux qui trouvent le moyen de chialer après Jack Eye là-dessus, là, dire que c'est lui qui a fait le geste inutile.
Écoute, il s'est fait. Bref, on passe-tu à ton segment, mon Zach?
Yes. Les boys, on parle de Jack Eye. On a parlé à Yann Pavel Laplante. Ce soir, top 5 des pugilistes ou fighters dans la Ligue nationale. Ils sont tous actifs. Puis, dans le fond, je veux savoir lequel, pas contre lequel tu battrais le moins, parce que nous trois, on se battrait pas contre eux, là, peu importe lequel. Mais, tu sais, mettons, lequel tu dis, lui, c'est sûr qu'il gagne ce combat-là. C'est bon?
Oui, vas-y.
Commence avec Mathieu Olivier.
1 ou 2, j'ai le goût de le mettre parce que, ben, en même temps, c'est tous des fighters, là, mais.
Non, mais Mathieu Olivier, 1 et 2. Oui, il est là à 2. Moi, j'irai à 2, Mathieu Olivier.
Tabarnak de fighter. Ouais. Matt Rempe.
Lui, il est grand, mais c'est tout. Ouais. Si, on dirait qu'il est pas assez intelligent pour comprendre ce que Georges Larac montre. Mm-hmm.
C'est good de le mettre 4.
C'est garder une marge de manœuvre. Là, genre, il va nous sortir. Il va nous sortir, je sais pas au moins. il va sortir Michael Pezzetta. Là,
ouais, 4.
C'est quand la dernière fois que Pezzetta a jeté les gains?
Dans la Ligue américaine. Non, je sais pas.
Mais bref, vas-y.
Next. Ryan's, je suis fini. Reeves.
Lui,
il a un esprit de réputation, par exemple. Là, mais,
1 ou 3, j'ai le goût de le mettre.
Ben, moi, j'irais pas à 1. Non, moi, j'irais pas à 1. T'sais, c'est sûr que le gars, On va y aller à 3, là, mais j'hésitais trop au 5. Fait que...
Le shérif Arbor Jack Eye.
On a parti pris sur le premier. Là.
Ouais, mais tu peux pas mettre 5. Là. Tu peux pas mettre une arrière de Rempe. Hey,
ils font ça à ce qu'a fait à Jack Cation. Là, en ce moment, il va pas bien parce que c'est PJ Stock qui l'entraîne, là, mais il faudrait que Georges Larac y retourne puis ça irait bien.
Ouais, mais tu sais, c'était pour ça que je voulais mettre. Reeves 5, mais en même temps, Reeves, parce qu'il est épeurant et il a une grosse réputation. Fait qu'on va mettre Jack Eye premier, je pense.
5, c'est.
Florian Jack Eye. Wow.
Ben lui, regarde, il n'a juste un combat dans la ligue.
Ouais, ça va être un tough. Ça compte pas comme un vrai combat dans la ligue, mais ça. Il crisse des volets pareils.
Non, je sais. Écoute, regarde, il va être un tough, il va être solide, mais mettons Ryan Reeves, vu qu'il est en fin de carrière en 5, puis Florian Jack Eye 3, ça aurait été comme logique, là, mais c'est ça. Fait que va aller 5e.
Parfait.
Ouais, c'est quand même un bon classement. Puis on a une question de Mathieu.
Combien de points selon vous pour le voyage de 3 matchs? Les deux derniers minutes du voyage vont être compliqués.
Ouais, moi, je trouve que 3 points sur 6, ça pourrait être une bonne possibilité, mais en même temps, tu affrontes quand même 3 bonnes équipes. Là. L'Utah, présentement, sont en milieu de classement. Ils viennent de gagner une grosse victoire hier contre... J'oublie contre qui on joue hier.
Contre Vegas.
Contre Vegas.
6-2 contre eux. J'étais présent. Claude était présent. L'Utah, c'est fait ça. Les mammouths, c'est dans nos cages.
Ben, sur 6 points, moi, je vais dire 4. Je vous dis pas comment, là. C'est peut-être une victoire puis 2 défaites en prolongation, peut-être, là, mais 4 points.
Daubèche va voler sa tête.
Pardon?
J'espère que Daubèche va gaulé sur la tête.
Ah, ok, ouais.
Peut-être. On a Félix Allary qui dit son classement, blend ranking ou je sais pas, je pense pas. Là.
Pas blind ringing, pas à tout. Il est à côté, puis il a attendu que j'ai dit tout avant de les mettre. Donc, Mathieu Lévy 1, ça, je savais qu'il allait mettre. Ben, Arbor Jacket 2, ok. Ryan Reeves 3, c'est lui qui dit qu'il est fini, fait que Ryan Reeves 3. Matt Rempe, gros futur fighter, s'il se met à arrêter de manger des coups, finalement.
5.
Puis Jacky, ça ne se rit pas avec 2K, mais écoute, on va te le laisser pareil.
Bon, fait que les gars, je vous laisse le mot de la fin. Je m'en vais en coulisses.
Ouais. Parfait. D'habitude, on annonce l'invité de la semaine prochaine. Présentement, je ne l'ai pas, mais je vais l'annoncer sur nos réseaux sociaux cette semaine. Fait que n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. 1h15 encore le podcast. Ça a été très intéressant. On a su... c'est quoi les déceptions que Yann Pavel a vécues dans sa carrière? Je trouvais que c'était très touchant pareil.
Ouais,
puis quand il a mentionné son père, je viens de me rappeler que son père il est décédé, je pense, un mois et demi ou deux. Fait que j'étais comme... J'étais comme fou, hein, c'est vrai, ça. Il y avait l'entreprise avec son père, puis je le suis quand même depuis un petit bout. Fait que c'était très intéressant. Un gros merci encore à lui.
Puis fuck you le russe qui l'a empêché de faire sa game.
Ah ouais, fuck le russe. Là-dessus, on se dit à la semaine prochaine, mardi 19h. Ciao, bye.
Salut.
Le numéro 8 pour Convention. On est tiré. Et le but!
Au jeu de la porte
de Robert. Donc, il va marquer son premier du match. Victoire de 7-2 des As de Jonquière.